Bonsoir à toutes et tous. Je suis Ronan Hervouet, sociologue à l'Université de Bordeaux, et je suis ravi d'animer cette rencontre ce soir avec deux auteurs. Nous accueillons Fabien Truong, qui est l'auteur avec Jérôme Truc de l'ouvrage publié à la Découverte en 2025, Grand Ensemble, Violence, Solidarité et Ressentiment dans les quartiers populaires. Et nous accueillons également, et nous en sommes ravis, Michael Chelal, qui a publié au Bordelot en 2024 l'ouvrage intitulé « Grandir en cité, la socialisation résidentielle des jeunes de cité ». Cette rencontre a été préparée dans le cadre d'un partenariat avec la librairie Mola et la faculté de sociologie de l'Université de Bordeaux. C'est la troisième édition, on en est ravis. Ma collègue Sandrine Ruy, qui est dans le public avec ses étudiants, et moi-même, avec mon groupe d'étudiants, avons donc accompagné ce travail. Des étudiants et étudiantes de troisième année de sociologie ont lu le livre durant ces dernières semaines et ont préparé cette rencontre et ces questions. Merci donc à toute l'équipe de Mola. Merci aux auteurs pour leur participation. Merci aux éditeurs. Et merci, un grand merci aux étudiantes et étudiants qui sont sur scène, mais aussi ceux qui sont en public et qui se sont investis dans la préparation de cette rencontre. L'échange va se dérouler en deux séquences distinctes. Une première avec Andrés Zabalos-Aublanc et Lou Bernard, qui présenteront l'enjeu de chacun des deux ouvrages et qui poseront un premier jeu de questions. Et puis, dans une vingtaine de minutes, une demi-heure, nous serons rejoints sur scène par Fanny Rigoni-Bertrand et Olivia Fèvre pour une deuxième séquence de discussion. Et pour ma part, mon rôle sera tout simplement de veiller à peu près au respect du temps, puisque la rencontre devrait durer environ 45 minutes à 1 heure. Merci beaucoup. Et donc, tout de suite, Lou, la parole est à vous.
Merci. Donc, Fabien Truong, votre livre « Grand Ensemble » est le résultat d'un travail ethnographique mené avec Jérôme Truc pendant près de 10 ans, à Grigny, une commune de la région parisienne dont était originaire Amédi Coulibaly, l'auteur des tueries de Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015, qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo. Pour vous, tout commence justement par là. Vous répondez à la sollicitation d'une journaliste de l'Humanité, qui pense que des sociologues pourraient être intéressés par l'analyse d'un mur de parole, initié par un collectif citoyen de Grigny après les attentats. Votre rencontre avec ce collectif est le point de départ et le fil conducteur de votre travail sur les liens entre violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires. Demain, le 13 novembre, cela fera exactement 10 ans que vous avez fait vos premiers pas à Grigny et que le soir même avaient lieu les attentats du Bataclan. Cette coïncidence tragique a d'emblée placé votre enquête dans un contexte national qui a accentué les tensions autour des quartiers populaires. Votre livre présente la synthèse de différentes enquêtes, menées à travers des entretiens, des observations et surtout un engagement régulier et prolongé sur le terrain. Cet engagement au long cours vous permet de montrer combien la vie dans les quartiers de Grigny, surtout à Grigny 2 à la Grande Borne, et traversée de contradictions et d'inégalités, mais aussi de liens invisibles d'entraide et d'une profonde volonté de dignité. Vous montrez au fond comment les habitantes et habitants veulent être grands ensemble. Votre ouvrage est organisé en trois parties, qui suivent une progression à la fois chronologique et analytique. Dans la première partie, intitulée « Attentats », vous revenez sur la période de sidération qui suit les attentats de janvier 2015. Vous montrez comment la population de Grigny a été marquée par cet événement. Amédi Coulibaly était leur voisin, parfois leur proche, et les habitants et habitantes ont dû vivre avec le regard extérieur et la stigmatisation des médias. La deuxième partie, intitulée « Un état d'urgence permanent », s'intéresse à la violence du quotidien, faite de précarité, de contrôle policier, de trafic, d'inégalités sociales. Vous décrivez ce que font les habitants et habitantes pour tenir malgré les conditions de vie difficiles, et comment ils transforment la violence en autre chose que la seule colère, notamment en solidarité et en engagement. Enfin, la troisième partie, « Chassés-croisés », explore les trajectoires individuelles et collectives des habitants et habitantes. Les populations migrantes y arrivent pour trouver refuge avant d'y vivre le repli. Certains rêvent de partir, d'autres choisissent de rester et de s'engager localement. Au fil des chapitres, vous insistez sur un point clé. La thèse du ghetto séparatiste ne tient pas complètement. Il y a bien des flux et des circulations entre le quartier de Grigny et le reste du monde. La force de Grand Ensemble, et ce qui nous a particulièrement plu, c'est que vous articulez une réflexion sociologique à une écriture fluide, sensible et ancrée dans le vécu des personnes que vous avez rencontrées. Elles sont d'ailleurs d'une grande diversité. Des femmes et des hommes qui sont habitants, éducateurs, professeurs, travailleurs sociaux, élus. On sent votre proximité avec elle et nous nous sommes nous-mêmes attachés au personnage. Vous restituez les voix, trop souvent étouffées par le vacarme médiatique.
Bonsoir. Je vais donc maintenant présenter votre livre, Michael Chalal. Donc, vous, dans votre travail sur les quartiers populaires, vous abordez plus spécifiquement la question de la socialisation des jeunes. Votre livre « Grandir en cité, la socialisation résidentielle de jeunes de cité » nous plonge dans le quotidien d'un grand ensemble de la banlieue parisienne pour comprendre comment les jeunes se socialisent à travers leurs relations d'âge, de genre et de génération. Ce qui est particulièrement original dans votre livre, c'est l'attention que vous portez à l'enfance. On parle souvent des adolescents des cités, beaucoup moins des enfants et de leurs premières expériences sociales. Cette perspective encore peu développée est l'une des forces de votre livre. La cité, ce n'est pas seulement un terrain d'enquête pour vous, c'est aussi votre histoire personnelle. Vous avez grandi à Rosny-sous-Bois, au Marneud, et c'est là que vous mènerez votre recherche, qui sera au cœur de votre thèse de doctorat, soutenue en 2022 à l'Université Paris-Nanterre, et dont votre ouvrage est l'aboutissement. Mais votre démarche de sociologue ne se limite pas à la recherche académique. Vous contribuez aussi à rendre la sociologie plus accessible. Avec votre podcast « À la cité », vous donnez la parole aux habitants des quartiers populaires dans une approche à la fois sensible et rigoureuse. Intéressons-nous maintenant plus en détail à votre livre. Dans ce livre, vous abordez les relations intergénérationnelles dans les cités populaires. Vous montrez que les enfants et les adolescents évoluent dans un système hiérarchisé, où les petits apprennent peu à peu à devenir des grands. Cette ascension, elle repose sur un ensemble de codes, de comportements et de pratiques sociales. Vous démontrez que la cité n'est pas un espace désordonné, mais qu'elle est traversée par des formes d'autorité implicites. Vous insistez aussi sur une notion centrale, celle du respect. Vous montrez qu'il ne s'agit pas seulement d'une valeur morale, mais d'un véritable principe de régulation des relations quotidiennes entre jeunes. Avec cette approche, vous proposez une image renouvelée des quartiers populaires, loin des représentations médiatiques qui sont souvent réductrices. Grandir en cité, c'est également apprendre à habiter l'espace. Les rapports d'âge et de genre organisent la vie quotidienne. Les grands occupent les lieux centraux, les plus jeunes cherchent des zones plus discrètes pour gagner en autonomie, tandis que les filles, davantage contraintes par la réputation et le regard des autres, sont poussées à se replier sur des espaces périphériques ou domestiques. Ce que nous avons tous beaucoup apprécié dans votre livre, c'est votre style très particulier, qui se distingue par une approche narrative et vivante. Vous alternez entre la description ethnographique et l'analyse sociologique. Les scènes de rue, les dialogues et les expressions locales sont accompagnées de concepts théoriques qui rendent votre propos palpable et accessible. En définitive, Grandir en cité nous invite à porter un autre regard sur les quartiers populaires. Un regard attentif, humain et sociologique, qui dépasse les clichés habituels. On découvre alors un véritable monde social, organisé, éducatif et profondément vivant. Donc, je vais commencer par une première question qui s'adresse à vous deux. Donc, Michael Chalal, comme je viens de l'évoquer, vous avez mené votre enquête dans le quartier dans lequel vous avez grandi. Vous, Fabien Truong, vous étiez extérieur à Grigny quand vous avez commencé votre enquête, tout comme votre collègue Jérôme Truc. Et vous avez dû gagner la confiance de ses habitants. Dans les deux cas, il s'est agi pour vous deux de trouver le bon dosage entre proximité et distance, entre engagement et distanciation sur le terrain. Michael Chalal, en tant qu'insider, votre position d'ancien habitant de la cité a-t-elle influencé la manière dont les jeunes se comportaient devant vous ? Avez-vous dû redéfinir votre rôle au fil du temps ? Et vous, Fabien Truong, à quel point a-t-il été difficile pour vous de rester objectif et de vous détacher du côté affectif de l'enquête. Ce sentiment et cette difficulté ont-ils évolué au fur et à mesure de l'enquête ?
On va laisser la parole aux insiders en premier. Vas-y, commence.
D'accord. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très honoré d'être ici, d'être au retour à Bordeaux aussi, où j'ai passé de magnifiques années en tant qu'ATER à l'Université de Bordeaux, et où je retrouve des visages connus d'étudiants et d'étudiantes que j'ai pu avoir en première année. Donc, merci beaucoup aux étudiants, merci à Renaud et à Sandrine pour l'organisation de cet événement. Alors, effectivement, pour la réalisation de cette enquête ethnographique que j'ai menée pendant 7 ans, hein, de 2015 à 2022, j'ai été travaillé par cette question de la proximité et de la distance, d'autant plus que dans les études de sociologie, on insiste beaucoup, dès les premières années, sur la distance avec son objet, hein, la neutralité axiologique. Bon, c'est parmi les bases de la sociologie. Donc, c'est une question qui m'a traversé. Pendant longtemps, je me suis demandé... et les enseignants aussi, hein, que j'ai eu à l'université de Nanterre, j'ai eu plein de recommandations en me disant, bon, est-ce que tu restes sur ton quartier, est-ce que tu changes de quartier, tout le temps en rapport avec cette question de la proximité, de la distance. En lisant pas mal d'ethnographes, notamment américains, qui n'hésitaient pas à travailler sur leur objet, enfin sur des objets qui étaient très proches, et même en lisant de la sociologie française, en fait, on se rend compte que beaucoup de sociologues travaillent sur des objets qui sont très proches. Donc je me suis dit que je pouvais... essayer de toucher, grâce à cette proximité, des choses qui a trait à l'intimité. Et donc c'est dans cette démarche-là que j'ai conservé ce terrain-là, en ayant aussi des considérations un petit peu pratiques, en me disant, bon, en étant du terrain, ça va me faire gagner du temps sur la thèse, qui est censée durer 3 ans, et au final, ça a duré 7 ans, mais parce que la démarche ethnographique fait que ça prend énormément de temps. Et pour cette question de la distanciation, j'ai quand même essayé de créer des éléments de distanciation. Alors, il y a plein de moyens de créer de la distanciation en sociaux. On est formé aussi à ça durant les études, hein. Déjà, la méthode de l'observation, passer par l'écrit, ça crée de la distanciation. En faire son auto-socio-analyse, hein, durant son enquête, questionner à chaque fois ses relations avec chacune des personnes qu'on rencontre, avec toutes les personnes avec lesquelles on s'entretient, etc., etc. Tout ça contribue à créer de la distanciation. Mais j'ai essayé de le produire aussi autrement, parce que j'ai suivi 2 groupes, principalement pour ce livre. Je me suis concentré sur l'ensemble de la jeunesse, hein, mais j'ai suivi principalement 2 groupes. Un groupe de jeunes hommes qui avaient 20 ans au début de l'enquête, et un groupe d'adolescentes qui avaient 15 ans. Et c'est avec elles et eux que j'ai passé le plus clair de mon temps durant ces 7 ans. Et pour le groupe des garçons, je n'ai pas intégré un groupe qui était mes amis proches. J'ai choisi des plus jeunes que moi, par rapport à cette question des générations que je voulais aussi observer, donc des petits par rapport à moi, peut-être qu'on reviendra sur ces différentes catégorisations. Et c'était très concrètement, hein, la bande d'un petit frère d'un ami à moi, que je connaissais comme ça, en saluant dans le quartier. Voilà, je ne les connaissais pas plus que ça. Donc en suivant ce groupe-là, que je connaissais moins que mes amis proches, je pensais créer un peu cette distanciation-là. Et pour les filles, les adolescentes, bon, c'est les générations de filles que je connaissais le moins dans le quartier. Donc, ça a été, c'est ce qui a contribué à la durée de l'enquête aussi, hein, parce que l'intégration dans le groupe des filles a pris beaucoup plus de temps que dans le groupe des garçons. Mais en tant que jeune du quartier en question, j'avais déjà une réputation, et moi, ma réputation, bon, c'était celui qui avait des bonnes notes à l'école, quoi. Et j'étais perçu de cette manière-là. Et j'ai pas eu à renégocier ma position, parce que quand je leur ai expliqué la démarche de l'enquête, de la thèse, en leur disant que c'était un gros mémoire, que ça prenait plusieurs années, etc., je leur ai expliqué plusieurs fois. Bon, bah, pour eux, c'était comme si c'était un devoir. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, si on peut t'aider à avoir une bonne note pour ton devoir, demande-nous ce que tu veux et il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pas eu à renégocier plus que ça ma position.
Bonjour, merci d'être présent, merci pour cette belle introduction et tout ce qui a été dit. J'y suis très sensible, je pense qu'on y est tous très sensibles. Alors, en sociologie, soit on est trop proche, soit on est trop loin. En fait, la question qui importe, c'est ce qu'on appelle en fait la réflexivité, c'est d'arriver à montrer le chemin en fait quand on fait une enquête, c'est-à-dire le chemin que vous parcourez quand vous faites une enquête, c'est d'essayer sur certains endroits de vous rapprocher, sur d'autres de vous détacher, et ce qui fait la scientificité en fait du propos et du discours, c'est à chaque fois de donner en fait les clés de ce chemin-là, et c'est exactement ce qu'on ne fait pas quand on parle de la banlieue sur un plateau télévisé. Vous avez des gens qui parlent des phénomènes, en fait ils ne parlent parlent que d'eux-mêmes, ils parlent de leur propre rapport au phénomène, et quand vous faites une enquête, vous questionnez en permanence ce rapport de proximité, de distance. Donc déjà, ça passe dans le texte. En fait, dans le texte, on écrit à chaque fois le rapport qu'on a avec les uns, les autres, comment ces rapports se transforment. Et donc ça passe. Et c'est pour ça que le livre, c'est pas un objet anodin quand on fait une enquête, c'est un objet qui permet justement d'écrire ça, qui permet de à la fois de mettre en scène, de mettre en acte la réflexivité, parce que ça, on peut pas faire ça en deux minutes. Donc j'ai envie de dire, comme disent les Anglais, the proof is in the pudding, c'est dans le livre qu'on arrive à voir ce chemin-là, mais c'est exactement ce qu'on fait quand on fait une enquête de sociologie. Après, par rapport à ce qui a été dit, et la question portait aussi sur l'attachement, donc je pense qu'on peut se sentir aussi dans le livre, évidemment, que avec Jérôme, de rester 10 ans à un endroit, on s'attache beaucoup, et ça fait partie, en fait, du jeu de l'enquête. Il y a plusieurs éléments, en fait, que j'aimerais souligner sur comment on essaye de tenir cette ligne de crête. Alors, déjà, quand on entre dans un quartier et qu'on n'y est pas connu, eh bien, il y a une certaine manière d'entrer. Donc, justement, on explique dans le livre comment je rentre, comment Jérôme rentre. On rentre en même temps, mais en même temps, on est différent. Et ça, c'est aussi ce qui est important dans notre livre, c'est le fait de l'avoir écrit à deux. Parce que le fait de l'avoir écrit à deux dans ce rapport de distance et de proximité fait que, dans le livre, vous allez avoir Fabien et Jérôme, parce que nous-mêmes, on arrive avec nos dispositions, avec notre socialisation, avec un rapport aussi un peu différent aux personnes qui est lié finalement à notre situation sociale, on va dire. Enfin, c'est ce qu'on appelle la positionnalité en sociologie. Donc ça aussi, on a entre guillemets joué avec ça et parfois surjouer ces choses-là dans le cadre du terrain. Et c'est important de le signaler parce que c'est un livre écrit à deux. Je pense par exemple à une scène, enfin je dis une scène parce que c'est une scène dans le livre, mais c'est un événement qui était dur et très traumatique à Grigny. Il y a un moment donné où il y a deux garçons, Moody et Samba, qui sont assassinés par un autre garçon. Et il se trouve que ce jour-là, avec Jérôme, on est à Grigny. Et on raconte dans le livre comment ce drame est vécu dans des endroits très différents de l'espace social. En gros, pour caricaturer, aller un peu vite, Jérôme est un petit peu avec les petites vieilles à ce moment-là. Donc il a leur point de vue sur l'événement. Moi, je suis plus avec les garçons, on va dire, et côté rue, parce qu'il y a aussi ce livre-là. Mais j'avais écrit un autre livre autour de la trajectoire d'Amédi Coulibaly, Loyauté radicale, qui avait fait que je m'étais un peu, entre guillemets, spécialisé sur certaines scènes sociales. Donc, et vous voyez, le fait d'être deux, par exemple, sur un même événement, c'est un même événement factuel, objectif, la mort de deux personnes, et d'avoir un rapport aussi assez différent et aux choses et aux situations et aux gens, permet de croiser des points de vue, de croiser des regards. Ça, c'est le regard compréhensif en sociologie, mais aussi de dépasser le simple fait divers, parce qu'on est déjà dans une perspective sociologique quand on regarde tout ça. Et puis, deux petites autres choses pour comme ça glisser des billes. Quand on arrive aussi, alors voilà, 10 ans, nous on est aussi resté 10 ans parce que, on s'est attaché évidemment, on a été accueillis, mais c'était le temps de bien faire les choses, à la fois de bien faire les choses, je dirais humainement, c'est-à-dire 10 ans, c'est le temps de vraies rencontres, mais aussi de bien faire les choses sociologiquement, parce qu'en fait, en réalité, regarder les choses sur 10 ans, ça vous permet de complètement décaler le regard sociologique. Quelque chose qui est spectaculaire. Quand on termine l'enquête, on se rend compte que la moitié des gens sont partis et la moitié des gens sont arrivés. Voilà, ben ça c'est entre guillemets banal en fait à l'échelle d'un quartier populaire, cette dynamique démographique, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce qu'on est dans la logique du fait divers, dans la logique du présent permanent. Donc cette temporalité, elle nous a aussi affecté, et on en parle aussi dans le livre, forcément, au bout de 10 ans, on est très très attaché, et entre guillemets, d'arrêter, ça fait quelque chose, et en fait, je crois qu'on arrête jamais vraiment, mais ça c'est une autre question. Et puis un autre élément aussi, c'est comme on l'a pu l'entendre dans ce qu'a dit Michael, c'est que on a essayé de faire une enquête assez assez exhaustive, c'est-à-dire d'aller voir justement, parce que les cités, ce sont des mondes qui sont assez cloisonnés en réalité, et donc il y a des expériences sociales qui sont très très différentes, et donc on montre aussi dans le livre comment on a un petit peu dosé la manière
dont on se présentait ou dont on s'arrimait à certaines scènes sociales. Par exemple, le maire de Grigny, qui est une personnalité très très importante, pendant les 2-3 premières années, on explique dans le livre comment en fait on essaye de le fuir. Nous, c'est très important, les 2-3 premières années, d'essayer de ne pas être trop vu avec le maire, justement pour ne pas être perçu comme des gens trop institutionnalisés ou trop proches. C'est très important, le pouvoir municipal dans un quartier, dans une ville populaire, parce que c'est le premier pourvoyeur en termes d'emploi, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des enjeux qui sont très forts. Donc, c'était important pour nous de se mettre à distance. Puis, dernier point dans la méthodologie, mais qui répond un peu à cette question de distance-proximité. Nous, ce qu'on a fait sur 10 ans, c'est pas... pendant 10 ans, on a habité. C'était 10 ans d'aller-retour. Donc, c'est des moments où parfois on va venir qu'une journée ou qu'un après-midi, ou parfois on va rester une semaine en dormant sur place. Ce moment de l'aller-retour, cette méthodologie d'aller-retour, elle est, pour plein de raisons, elle produit un rapport à la réflexivité assez, assez important. C'est-à-dire on peut être très immergé et en même temps, on a des moments où ça s'arrête. Et c'est aussi intéressant dans le rapport aux personnes qui participent à l'enquête. Et le fait notamment d'avoir des gens qui reviennent régulièrement, ça change beaucoup d'un certain rapport à ces prédateurs que les habitants et les habitants des cités peuvent avoir vis-à-vis du regard extérieur. Et ça a un peu fait partie aussi de la démarche. Et nous, ça nous a permis aussi sur la question du recul, de prendre du recul, parce qu'en fait, c'est des journées, c'est très intense comme type de terrain. Il y a beaucoup de choses très dures auxquelles on est confronté. Et parfois, il faut aussi pouvoir, et c'est un luxe, nous, on a ce luxe-là en tant que sociologue, de pouvoir s'extraire de certaines situations, ce qui n'est pas le cas des habitants et des habitantes. Mais on a besoin de ce luxe-là aussi pour pouvoir penser, en fait, les choses et faire le travail de sociologue, quoi.
Donc Fabien Truong, vous avez pu compter sur le rôle de Foued, un habitant de Grigny, qui a été une personne ressource pour votre terrain. Est-ce que vous pouvez revenir sur la relation que vous avez nouée avec Foued et sur sa place dans l'enquête que vous avez menée ?
Oui, merci. Alors Foued, c'est quelqu'un de très important, de crucial. Sans lui, c'est très difficile de faire cette enquête, voire je pense que c'est pas possible. Ça revient aussi à ce moment de comment on arrive en fait, et notamment dans un quartier populaire. Et donc Foued, pour le dire vite, c'est quelqu'un qui compte énormément à Grigny. Dans la partie chassés-croisés, il y a les gens qui partent, les gens qui arrivent, les gens qui restent. Foued, c'est quelqu'un qui est resté, quoi. Qui est resté pendant plus de 30 ans, qui a commencé en tant qu'éducateur social et qui a terminé responsable du service jeunesse et qui est maintenant responsable d'autres structures. Donc, c'est quelqu'un qui est ultra implanté dans la ville. Il a une mémoire, en fait, sociale de la ville très, très forte. Mais au-delà de ça, et je le dis vraiment de manière littérale, c'est quelqu'un qui a sauvé beaucoup de vies. Parce qu'en fait, quand vous avez cette position dans un quartier où il y a ce qu'on appelle un état d'urgence permanente, des crises en permanence, et que vous avez, en fait, c'est intéressant, cette mémoire des choses, puisqu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et beaucoup de gens qui perdent. Donc, la mémoire se perd. C'est intéressant, hein. Par exemple, Amédi Coulibaly, figure très importante en 2015. Mais maintenant, quand vous discutez avec des Grignois, des Grignoises qui sont arrivés il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça leur dit rien, en fait. Et donc, les choses, elles bougent aussi. Et c'est quelqu'un qui a la mémoire de tout ça. Et puis, tu en parlais, qui a le respect, vraiment. On explique dans le livre, et ce qui s'est passé avec Foued, c'est qu'on a beaucoup discuté avec lui, on l'avait un petit peu repéré, sur ce qu'on avait envie de faire, pourquoi on arrive, dans quel contexte. En fait, c'est aussi quelqu'un qui connaît bien les sciences sociales. En fait, il a une thèse en anthropologie, donc il comprend en fait aussi ce qu'on veut faire. Donc, on discute beaucoup. Après avoir discuté, c'est un peu comme une sorte d'entretien d'embauche. Il nous fait à peu près confiance, et puis à peu près. Et donc, il commence à nous faire rencontrer des gens. Et puis, bon, pour un peu accélérer, tout est dans le livre. Mais comme il explique, il dit donc c'est très important d'être vu avec lui. Il y a toute une partie du livre où l'importance de la voiture, d'être vu avec quelqu'un. Si vous êtes vu avec Foued, ah ok, il le connaît, etc. Et puis après, comme il nous a dit, fait serrer les paluches, vous rencontrez les... Et puis après, on voit ce qui se passe, quoi. Et si ça se passe mal, eh ben, voilà, le test aussi, il est en grandeur nature. Mais voilà, il y a une... Et ça, c'est important de le dire, il y a une capillarité, en fait, sociale de la confiance. Ça fonctionne comme ça, quoi. Dans toute enquête, hein, en fait, sociologique. Mais je dirais, c'est probablement un peu plus intense dans une cité ou dans un quartier populaire, parce que le niveau de stigmatisation est tel... Et les traîtrises, c'est-à-dire, c'est ce qu'on documente dans la première partie du livre, hein, le nombre de fois en fait, où des habitants et des habitantes se sont fait, en fait voler leurs paroles, voler leurs discours, voler leurs images par des journalistes mal intentionnés, parfois par certains collègues aussi, il faut le dire. Donc voilà, et donc ce geste aussi de la lenteur, c'est prendre le temps, revenir, etc., et construire des relations. Et donc, mais oui, on ne peut pas arriver comme ça dans un terrain sans passer par les personnes qui comptent. Et c'est cette histoire de grand, de petit. Il y a des hiérarchies en fait, mais qui renvoient pas. Elle renvoie des choses très concrètes. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est en fait, c'est pas juste. Je suis grand et je suis plus fort. C'est parce qu'il y a une antécédence. Il y a eu beaucoup de services qui ont été rendus. Il y a eu beaucoup d'aide et de solidarité. Et ça crée une forme de capital. Donc, on peut pas faire sans. Et l'idée, c'était de travailler avec, autour. Et voilà, j'en profite encore pour remercier Foued parce que on lui doit beaucoup, quoi.
Merci. On avait aussi une autre question, plus spécifiquement pour vous, Michael. Donc, on se demandait comment vous avez réussi à gagner la confiance des enfants pour qu'ils se comportent naturellement pendant vos observations. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées pour accéder à certains espaces, à certains groupes ou à certains récits? On pense notamment à ceux des filles ou ceux des anciens.
Une des choses les plus importantes que Fabien a évoquées, hein, c'est la question de la durée. Une des caractéristiques de l'enquête ethnographique, généralement, c'est la durée et le temps de présence passé sur le terrain. Une fois que vous êtes continuellement sur le terrain, contrairement à Fabien, moi, comme j'ai habité, j'étais là constamment. J'ai aussi été animateur sur la ville. Ça aussi, c'est quelque chose qui a joué sur le fait de se pencher sur le groupe des enfants. Le fait que le sujet était la question de la socialisation et donc la question de savoir comment on intériorise des valeurs, des codes et des normes, et que cette socialisation elle se déroule dès l'enfance. Bon, c'est pour cette raison aussi que je me suis consacré à cette période de la vie. Comme vous l'avez souligné aussi, j'avais remarqué qu'on parlait peu des enfants. Mais c'est le temps de présence, le partage d'activités communes, hein, une des caractéristiques aussi de l'ethnographie, souvent, c'est de faire de l'observation participante, et donc c'est de participer aux activités que font les enquêtés, comme on dit en sociologie. Une fois que la présence elle est actée et qu'on est un peu habitué à vous, l'intégration, l'observation, ensuite, elle se fait naturellement, quasi naturellement, quoi. C'est-à-dire qu'on dérange plus l'activité des enfants. Alors, comme il y a ces rapports de génération, petits, grands, ce qui rend aussi possible cette intégration naturelle, entre guillemets, avec les enfants, c'est qu'on est dans un espace social où les différentes générations de jeunes cohabitent ensemble dans l'espace public. C'est-à-dire que c'est trivial de voir des plus âgés discuter avec des plus jeunes, et notamment discuter avec des enfants. Donc tout ça fait que, au bout d'un moment, on peut observer sans trop déranger les activités, les actions qu'on est en train d'observer. Je le disais aussi tout à l'heure, la plus grande difficulté, je pense, pour cette enquête et celle qui l'a fait durer, c'est l'intégration au groupe des filles, parce que il y a des rapports de genre en cité, hein, qui font que dans ce type d'espace urbain, il y a une très forte interconnaissance globale. Les garçons, généralement, construisent dès l'enfance un capital social qui est un peu plus développé que les filles. Et les générations plus jeunes de filles, donc je les connaissais beaucoup moins. Là aussi, je peux raconter très concrètement comment ça s'est passé. En fait, parfois, il y a des opportunités sur le terrain, des rencontres, des choses. Voilà, on tombe sur des gens, on tombe sur une action, une activité, quelque chose qui se passe. Et il faut savoir, des fois, j'aime pas ce terme, mais j'allais dire profiter, mais c'est pas profiter, c'est vraiment essayer de tirer ce qu'on peut de cette rencontre, de cette rencontre-là. Et j'avais imaginé, en fait, comme moyen de connaissance des filles du quartier, en fait, la thèse que j'ai faite, je l'avais un petit peu commencé en mémoire de master, hein, et ça, j'avais poursuivi ensuite durant la thèse. Et ma deuxième année de master, j'avais distribué un questionnaire en fait dans le collège du quartier qui avait vraiment aucune valeur quantitative. C'était vraiment là d'un point de vue qualitatif. C'était pour me faire voir par les plus jeunes générations de filles au lieu de faire le tour du quartier. Et donc dans une des classes en fait, je distribue le questionnaire. Il y a une des filles de la classe qui m'interpelle et qui me demande de faire perdre du temps. C'est en cours de maths. Elle me dit je déteste les maths. Est-ce que tu peux faire perdre du temps s'il te plaît? Je lui dis non, je peux pas. Mais si tu as des questions sur le questionnaire ou sur la sociologie, je serais ravi d'y répondre. Et donc, il y a un petit premier lien qui s'est créé de cette façon-là. Ensuite, une semaine, deux semaines après, elle habitait le square qui était accolé au mien et elle me questionnait à chaque fois que je passais. Elle me demandait des nouvelles du questionnaire, elle me demandait ce que ça allait changer les parcs du quartier, enfin, poser des questions. Et progressivement, on a pris contact. Il y a une des choses aussi qui a beaucoup joué, c'est la place des réseaux sociaux. C'est qu'il y a aussi une relation qui s'est créée via Snap. Ça, c'est tout un travail, c'est tout le travail de l'enquête, de créer des relations de confiance que tu as évoquées qui sont très importantes, mais aussi de poursuivre un travail quotidien de création de cette relation de confiance. Et donc là, très trivialement, bon, c'est commenter chacune des stories, s'envoyer des snaps ou ce genre de choses-là. Mais après, c'est aussi tout un travail progressif et c'est pour ça que l'enquête ethnographique prend du temps. C'est que il faut y aller aussi progressivement, c'est-à-dire que on passe d'abord 30 minutes, puis 45, puis une heure, puis la situation, elle paraît moins anormale que d'habitude, et avec la durée, ça paraît normal.
Merci beaucoup. On va passer au deuxième jeu de questions avec une nouvelle équipe qui va monter sur scène. Merci Andrés, merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Donc après ce temps de discussion sur la fabrique de l'enquête, sur la méthode de l'ethnographe, etc., la discussion portera davantage sur les questions d'écriture, de réception et de suite éventuelle donnée à ces deux ouvrages. Fanny, je vous laisse.
Bonjour Fabien Truong, bonjour Michael Chelal. Fabien Truong, vous avez coécrit cet ouvrage avec Jérôme Truc. Comment s'organise concrètement un travail d'écriture à deux? Comment parvient-on à une cohérence de ton et de style dans un projet collectif?
En se fâchant un petit peu. Ben, comme tout projet à deux, c'est un travail aussi de mise en collaboration. Oui, ce qu'on a voulu faire en travaillant à deux, c'était trouver un ton qui soit commun. J'espère que ça se sent dans la lecture, c'est-à-dire qu'on se dise pas... C'est pas du tout un livre. Il y en a un qui a écrit une partie, l'autre. On a fonctionné de manière très très organique. Il fallait qu'il y ait une unité de ton, de rythme, etc. Qu'on voit aussi chacun de nos corps en fait dans l'enquête. C'est pour ça que il y a Fabien et Jérôme. Hein, je l'ai dit tout à l'heure dans le livre. Donc bon, ça fait un petit côté Alain Delon comme ça, mais dit comme ça. Mais c'était aussi une manière de voir dans l'espace du texte et de l'enquête aussi le corps. Des sociologues, et ça c'est important, parce que du coup, ça permet aussi de comprendre comment on construit finalement un fait social. Quand on fait de la sociologie, c'est-à-dire, c'est la première conversation qu'on avait. Et puis après, du coup, c'est beaucoup d'aller-retour entre nous. Si la question porte sur la cuisine et la sauce, mais on avait quand même des lignes très très claires qui sont aussi liées à la conception qu'on a des sciences sociales et de l'écriture. Et c'est aussi un texte qui paraît dans une collection que je co-dirige avec Paul Pasquali, où la question de la narration est extrêmement importante. Nous, on considère que une belle enquête, et justement là, ce que j'appelais tout à l'heure la réflexivité, eh bien, ça peut se raconter. Et que c'est pas un gros mot, justement, et que la narration, le fait de raconter comment, pas à pas, on construit des relations, des preuves, on traverse des épreuves. Ça, ça fait partie du chemin à la fois de l'enquête sociologique, mais aussi du chemin de l'écriture. Et donc, du coup, on avait un petit peu tout ça en tête. Et quelque chose qui est extrêmement important aussi, il y a beaucoup de verbatim dans ce livre-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entretiens et on entend beaucoup la parole des personnes. Alors, nous, on avait... je ne les compte même plus, mais des centaines et des centaines et des centaines d'heures d'entretien sur 10 ans, c'est colossal. Donc là aussi, le fait d'être deux, ça nous a beaucoup aidé dans le traitement de la masse des données. Et, et ce qu'on faisait souvent aussi, je vous donne des petits bouts de... C'est que parfois, en général, dans la sélection de ce qu'on allait choisir, parce que c'est dur, pourquoi on va choisir finalement, même si vous avez un verbatim d'une page, ce qui est beaucoup dans un livre, mais finalement, une page sur des dizaines d'années d'entretien avec une même personne, c'est absolument rien, en fait. Et donc, le fait d'être deux, vous voyez, parfois, c'était celui qui n'était pas présent le jour de l'entretien, ou qui était peut-être un peu moins proche de tel ou tel enquêté. On avait un peu ces regards où on essayait toujours d'avoir un double regard, parce qu'on avait des rapports un petit peu différents avec chacun et chacune des enquêtés, qui permettaient aussi parfois de prendre du recul. Et puis l'idée, c'était de faire des relectures vraiment à deux, d'avoir quelque chose de très très fusionné. Et à la fin, parce qu'en fait on n'a pas le même rapport du tout à l'écriture, mais vraiment pas du tout. On ne le savait pas. En fait, on s'est rendu compte en écrivant. On s'est dit, waouh. Et donc, du coup, ça a été un peu sportif. Hein. Il a fallu, qu'on se dise un peu nos quatre vérités, mais ça fait partie du chemin. Mais comme on a un rapport, en fait, fondamentalement opposé à l'écriture, on a aussi appris avec ça. Et le but, c'était de se dire, bon, à la fin du livre, faut que toi comme moi, on assume la moindre virgule, le moindre adjectif. Donc il y a eu on a aussi chacun fait un chemin l'un vers l'autre dans le processus d'écriture, tout en essayant de trouver quelque chose de très le plus fluide possible. Parce que aussi on a une conception de la sociologie comme la sociologie publique et une belle enquête. On essaye de faire en sorte que ce soit aussi un bon livre. Et quand je dis un bon livre, c'est un livre qui, où il y a un plaisir de lecture. Ça, c'est quelque chose qui est central dans la collection L'Envers des Faits, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça passe par beaucoup de ratures, on jette beaucoup, l'écriture, quoi. Mais à deux.
Je vous remercie. Donc j'ai une question pour vous, Mickaël Chéal. Vous avez opté pour une écriture à la première personne, en utilisant donc le jeu. Mais vous restez finalement plutôt en retrait dans le récit. Vous mettez peu en scène, ce qui n'est donc toujours pas le cas dans les livres relatant des enquêtes par participation observante. Pouvez-vous donc nous indiquer ce qui a guidé vos choix d'écriture et si vous avez été inspiré, influencé par des modèles, des livres particuliers qui vous ont donc marqué ?
Un peu comme la question de la proximité, de la distance, j'ai été beaucoup travaillé par la première personne lors de l'écriture. Quasiment tous mes travaux universitaires, je ne les écrivais pas à la première personne. J'écrivais toujours on, alors que même si j'écrivais seul, même la thèse, en fait, quand je l'ai rédigée, j'écrivais on, en comprenant moi et mon directeur de thèse, alors que... Et j'ai eu beaucoup de mal à écrire à la première personne. Et je pense que c'est quelque chose que les étudiants ont aussi beaucoup de mal à faire, d'écrire, d'utiliser le jeu. C'est un travail qui se fait aussi par la relecture avec les pairs et donc avec mon directeur David Lepoutre, qui m'a dit, il faut passer au jeu, ça sert à rien d'écrire à la troisième personne. Mais c'est vraiment pas facile à faire. Un peu comme Fabien, moi aussi l'objectif du livre, c'était qu'il soit le plus accessible possible, qu'il soit le plus vivant possible. C'est pour ça qu'il y a également beaucoup de citations d'entretien, de notes d'observation, d'échanges de conversations, parce que même si la thèse, c'est un exercice universitaire à destination des étudiants et des autres chercheurs, quand j'ai rédigé le livre, pour moi, je voulais qu'il soit à destination des membres des classes populaires avant et qu'il soit le plus accessible pour les membres des classes populaires. Et dans mon esprit, je ne sais pas, je me disais que pour rendre ça plus accessible aux classes populaires, il faut que le livre soit le plus vivant possible. Je me suis beaucoup inspiré, moi, des ethnographies françaises et nord-américaines, donc cœur de banlieue. Une des grosses inspirations, et je conseille souvent aux étudiants, et notamment l'indice méthodologique, c'est Streetcar Merchant Society de William Foote White. Et aussi l'ouvrage de Ward Baker, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Écrire les sciences sociales ». Bon, bah, là, il met à plat un peu tous les questionnements qu'on peut avoir sur l'écriture. Et donc ça fait vraiment plaisir de lire ces choses-là.
Je vous remercie. Maintenant, c'est une question pour vous deux. Donc, à la fin de votre travail, avez-vous partagé vos analyses avec les enquêtés ? Savez-vous s'ils ont lu votre livre ? Et si oui, quelles ont été leurs réactions ? Ces réactions vous ont-elles surprises ?
Oui, alors je vais... En fait, nous, du coup, je vais renvoyer vers une vidéo, parce qu'en fait, on a fait un truc avec Jérôme qui se fait pas, qui est habituellement peut-être en sciences sociales, parce que vous savez qu'on anonymise, ou peut-être vous le savez pas, mais en fait, quand on est d'ailleurs Foued, c'est pas son vrai prénom. Alors, ça pose tout un tas de questions, et j'en reparlerai d'ailleurs dans une seconde, mais on change les prénoms, parce que l'idée, c'est pas d'exposer les gens par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est on n'est pas justement dans une logique de faits divers, mais voilà, les personnes elles représentent génériquement aussi d'autres personnes, donc et puis ça fait partie, c'est ça aussi qui fait qu'on a des conversations, comment dire, sociologiques avec les personnes, parce que on sait qu'on parle de choses qui sont plus grandes, qui sont structurelles, qui se répètent, etc. C'est un mode de conversation assez particulier, mais qui vous emmène très très vite vers l'intime. Mais le fait en parlant avec la personne de savoir que il y a une forme d'utilité parce que ce sera utilisé d'une manière ou d'une autre publiquement, mais que vous en tant que personne vous êtes protégé. Et c'est vrai que moi dans mes enquêtes je vais dans des zones où il y a des choses qui sont très dures ou des choses qui sont illégales, etc. Donc ça pose tout un tas de questions qui sont à la fois des questions morales mais aussi des questions au fond oui juridiques. Et donc il y a cette question de l'anonymisation, mais pour ce livre là on ne se voyait pas. Alors oui, aussi pour préciser peut-être que pendant qu'on fait l'enquête on cherche, nous, hein, donc on n'a pas de réponse. Ça c'est un peu justement l'antithèse de la démarche ethnographique, c'est pas un papier journalistique et de ce qui est devenu, de ce qui est en train de devenir le journalisme. C'est les journalistes, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, surtout dans les quartiers, avant de enfin, il n'y a pas vraiment d'enquête, c'est on va choper des paroles qui illustrent déjà un angle très précis qui a été déterminé dans une conférence de rédaction. Donc nous on sait pas en fait. Donc jusqu'à l'écriture du livre, on n'a pas eu de phase où on dit aux personnes voilà ce qu'on pense de nos conversations. C'est un chemin qui est très très long. Donc ça n'existe pas pendant le moment de l'enquête. Hein. Ce qui compte, c'est de partager des moments ensemble, de se parler très souvent, d'observer des choses, mais pas forcément de dire voilà entre guillemets ce que je pense de ce qui se passe. Mais par contre, on ne voulait pas faire la sortie du livre, vous voyez, sans les habitants et les habitantes. Après 10 ans passés dans une ville, c'est pas possible en fait. Et on voulait pas que ce soit trop descendant ou vertical. Voilà notre livre. Donc on a, et je vous y renvoie, on a monté une émission avec le média Mediapart autour de la sortie du livre et avec les habitants et les habitantes. On a demandé aux habitants et les habitantes, à ceux qui avaient envie de participer, de dire quelque chose, s'ils avaient envie d'être filmés, etc. Donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Et donc on voulait créer une sorte d'objets aussi sur Internet, alors aussi sur la question de l'accessibilité, parce qu'on n'est pas, quand on est sociologue, on sait que l'accès aux livres, il faut du capital culturel, il faut du capital économique, et donc l'idée aussi, c'était de laisser une trace vidéo d'une heure et demie avec des conversations qui sont des conversations de type sociologique, qui sont accessibles justement à ceux pour qui un livre, c'est compliqué. Et donc, il y avait aussi cette volonté-là de co-construire les choses. Mais c'est vrai que du coup, on révèle un petit peu les identités de personnes et on les expose en faisant ça. Mais bon, au bout de 10 ans, on a construit une relation qui fait que ça nous paraissait acceptable. Et puis, c'était aussi... pour nous, il y a un geste qui est important dans ce livre-là, c'est de redonner la parole aussi... enfin, nous, on est des intermédiaires, en fait, hein, en écrivant un livre. Et donc là, ça permettait ça. Et donc, mais on l'a fait un peu sans filet. C'est-à-dire, on ne savait pas ce qu'allaient dire les uns, les autres, etc. Et donc, c'était... donc voilà, ça, c'était une manière un petit peu... Alors, c'est très rapide, parce que finalement, nous, on avait donné en amont le livre aux enquêtés avant qu'ils soient dans le commerce. Pour nous, c'est un geste éthique qui est très important. Mais après, et puis ça a donné aussi envie à certaines personnes de prendre la parole publiquement, etc. Donc, et bon, maintenant, le livre vit sa vie, donc mais je vais épuiser mon temps de parole, mais il se passe de belles choses avec le retour sur le livre. Mais ce qui est chouette aussi avec un livre, c'est que c'est une temporalité qui est très différente. C'est-à-dire que le livre, je parle à des lecteurs et des lectrices. Hein. On a tous et toutes des livres qui sont là sur notre table de nuit, qui nous font de l'œil pendant des fois 10 ans. Voilà. Et puis, donc, il y a un temps, le temps du retour de lecture, c'est le temps des lecteurs et des lectrices. Et donc, là, on est en train de vivre ça, mais ça se fait de manière douce, en fait.
Alors, faut savoir que j'ai anonymisé les enquêtés, mais le quartier n'est pas anonymisé, comme vous l'avez dit en introduction. Bon, ça se déroule à Rosny-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis, dans le sud de la Seine-Saint-Denis. Sur la forme, ça peut ressembler, mais c'est pas tout à fait pareil, à Grand Parc. Ça ressemble plus à Grand Parc qu'aux Aubiers, dans la forme architecturale, pour si vous arrivez un peu à visionner à quoi ça ressemble. Donc, pour les personnes qui viennent du quartier, j'ai eu beaucoup de soutien des gens du quartier qui ont acheté le livre. Et un de leurs objectifs, que j'ai pas anticipé, hein, c'était d'essayer de repérer qui était qui dans le livre, en fait. Une des choses qui est revenue très très souvent. Mais j'ai eu aussi beaucoup de retours sur les filles qui ont considéré que la façon dont je décrivais leur occupation de la cité, parce qu'une des conclusions du livre, c'est de dire que les filles, elles ne sont pas si absentes des cités, alors qu'on a l'impression que c'est des no woman's land et que c'est des espaces qui sont totalement dominés par le masculin et que les filles sont totalement, cantonnées à l'espace privé du logement. Bon, j'essaye de montrer que durant l'enfance, elles considèrent d'ailleurs que c'est la période qu'elles préfèrent dans la cité. Elles sont très présentes, elles jouent, elles ont avec des différences de genre par rapport aux garçons, mais que durant l'adolescence ensuite, elles sont un peu plus présentes, elles ont leur espace de regroupement, mais elles deviennent plus mobiles, etc., etc. Bref. Donc j'ai eu beaucoup de retours sur des filles de quartier qui m'ont évoqué cet aspect-là. Peut-être une des. Alors il y a beaucoup de monde qui dans le quartier qui ont acheté le livre, mais qui l'ont pas encore lu. Et qui m'ont dit, on te soutient. Il y a un peu cette logique, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Il y a un enquêteur qui m'a dit, ouais, t'as mis Rosny sur la carte. Quoi. C'est un peu comme les rappeurs qui sortent un album qui évoquent leur quartier ensuite dans les lyrics. C'est un peu ce rapport-là. Mais une des choses aussi qui m'a marqué, j'ai fait quelques présentations hors Seine-Saint-Denis et hors Île-de-France, c'est que. Ces rapports petits-grands, en fait, on les retrouve dans plein d'autres cités. Je le savais parce que, de par ma famille qui habite quasiment tous en Seine-Saint-Denis et dans des cités, j'avais repéré déjà aussi ces rapports-là. Mais j'ai eu plein d'histoires, notamment des gens de 91 qui me racontaient comment ça se passait, les rapports petits-grands, et des choses qui ne se passaient pas comme ça dans mon quartier. Ça enrichit même encore le livre après la sortie.
Vous parlez tous les deux de la cité, des quartiers populaires, de leurs habitants et habitantes, avec beaucoup de respect. Est-ce que c'est pour vous une manière de changer le regard que les gens portent sur ces quartiers ? Qu'aimeriez-vous que les gens qui ne connaissent pas la vie en cité, dans les quartiers populaires, retiennent de votre livre ? Comment éviter que l'étude d'un territoire stigmatisé ne contribue, malgré elle, à renforcer le stigmate qu'elle cherche à déconstruire ?
Merci, vaste programme. Qu'est-ce qu'on aimerait que les gens retiennent ? Alors, y a autant de livres que de lecteurs et lectrices. Donc, en fait, quand on écrit le livre, il prendra ce qu'il a envie d'y prendre, ce qu'il peut, ce qu'il veut y prendre. Donc, c'est pas par rapport à ça, j'ai pas de comment dire de. C'est pas un pamphlet, en fait. Vous voyez, donc on n'a pas écrit un livre comme ça sur 10 ans pour dire voilà ce qu'il faut penser. Par contre, il y a des mécanismes sociologiques qu'on a identifiés. Donc, vous en avez un peu parlé. Je vais pas le faire là parce que du coup, ça fait un peu résumé comme ça à l'accéléromètre. Mais voilà, le fait que les quartiers populaires sont hyper connectés au centre urbain, le fait qu'il y ait une vitalité démographique très très forte, le fait qu'il y ait une coexistence en fait entre des formes de violence structurelle très fortes, mais qui ne sont pas, et nous on parle de violence structurelle, ce n'est pas des violences culturelles, ce n'est pas des violences liées à des préférences religieuses, ou voilà, c'est d'autres choses dont il s'agit, mais que le revers en fait, de ces violences structurelles, c'est des niveaux de solidarité extrêmement forts. En fait, il y a un truc, peut-être si on connaît pas trop ces espaces sociaux, qui est très caractéristique, c'est que en fait, il y a un niveau de solidarité très fort avec des gens qui se connaissent très peu. Ça n'existe nulle part ailleurs dans l'espace social. C'est-à-dire parce qu'en fait, les gens se connaissent pas si bien que ça. Et ça, c'était aussi intéressant à travers l'enquête, c'est que nous, on arrive dans une position un peu particulière au bout de 10 ans. C'est que, au bout de 10 ans, on commence à connaître plein de choses que les gens ne savent pas les uns sur les autres, en fait. Hein, c'est aussi ce qu'on récolte avec un peu de patience, entre guillemets. Et là, on se rend compte que finalement, il y a plein de gens sur des moments de crise ou dans des moments particuliers qui sont rendus des services, mais très, très forts. Enfin, c'est vraiment... C'est plus que du service, hein, ça lie les... Alors, ce qui peut produire aussi un potentiel de violence, les gens sont très reliés les uns aux autres, on le développe aussi, donc on essaye aussi de pas du tout être, angéliste par rapport à tout un tas de choses, mais ce niveau de solidarité avec des gens qui se connaissent pas si bien que ça, mais cette solidarité, elle est quasi obligatoire pour avancer et pour parce qu'en fait c'est le collectif en fait hein. Tout est collectif enfin, je suis sociologue mais je veux dire même les gens qui vous disent si tu veux tu peux c'est des héritiers qui vous disent ça donc en fait c'est déjà si ils peuvent parce que ils ont eu déjà beaucoup de choses qui sont liées à du collectif et ça c'est quelque chose qui est à la fois beau et tragique en fait d'une certaine manière dans la vie en quartier populaire et si à travers la lecture du livre on peut le ressentir mais aussi entendre tout ce que cela de à la fois de je sors un peu de la sociologie mais je pense que enfin quand on s'engage aussi longtemps dans enquête c'est que il y a des choses qui dépassent juste les faits sociaux décrits de manière peut-être un peu brute et un peu froide mais cette forme de à la fois de beauté de tragédie qui est très forte si on peut la ressentir à travers la lecture du livre je pense qu'on en sera heureux. Et la dernière section du livre s'appelle « Avec joie ». On a tenu à terminer sur une section où la question de la joie devient prépondérante. C'est aussi pour avoir une compréhension en fait, sociale, sociologique et politique de ce que c'est que la joie. Et je pense que c'est... Enfin, vous avez vu la séquence qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est important, en fait. Donc restons sur la joie. S'il faut retenir quelque chose, ça nous va.
Bon, je vais rebondir sur des choses que tu as dites. Déjà, la vision dominante sur les cités, c'est qu'elles sont perçues comme des espaces de désorganisation sociale, hein, ça a été aussi évoqué dans l'introduction, on a l'impression, ce qui domine les représentations médiatiques aussi sur ces espaces-là, c'est que dans ces quartiers-là, c'est la loi du plus fort qui régnerait et qu'il n'y aurait aucune organisation, il n'y aurait aucun contrôle social. Et ce que je finis par observer, ce qui rejoint ce que tu as dit, Fabien, c'est cette forme de solidarité à travers cette forme d'organisation sociale au sein de la jeunesse, entre deux catégories principales que vous avez un peu évoquées tout à l'heure en introduction, le groupe des petits et le groupe des grands, et que ces relations intergénérationnelles, c'est... une des manières de faire fonctionner la solidarité entre les jeunes des quartiers, parce que les grands, par exemple, ils peuvent avoir une fonction de protection, ils peuvent avoir une fonction de ressources. Par exemple, on commémore les 20 ans des révoltes de 2005. Bon, les grands ou les plus âgés des grands, ils sont porteurs de l'histoire du quartier et ils ont transmis cette histoire-là aux plus jeunes. Notamment en 2023, après le décès de Naël, lorsqu'il y a eu les révoltes de 2023, les grands ont raconté à ce moment-là ce qui s'est passé, comment ça se passait en 2005, etc. Ils transmettent des choses qui attraient à l'histoire du quartier. Tout ça donc témoigne d'une certaine forme d'organisation et d'une certaine forme de solidarité qui est un des traits les plus importants dans le fonctionnement de cette jeunesse et dans le fonctionnement de cette socialisation. Mais c'est aussi de comprendre que Ce qu'on peut observer dans les faits divers, bah, c'est le fruit de logiques qui prennent beaucoup plus de temps, qui démarrent dès l'enfance et qui sont le fruit d'une socialisation. Si les jeunes, bon, on retient très souvent l'occupation des halls d'immeubles, mais en fait, dans l'occupation des cités, c'est l'ensemble des espaces publics qui sont occupés, hein, c'est les parkings, c'est l'entrée d'un parc, c'est l'entrée d'un square, etc. etc. Bon, bah, ce rapport à l'espace public, il est à comprendre au regard des conditions sociales d'existence, du rapport à l'espace privé, à l'absence d'espace d'intimité, aux questions de ces ségrégation sociale, ethno-raciale, la question des mobilités sociales, enfin bref, de tout un tas de phénomènes sociaux qui viennent construire ce rapport à l'espace public et cette proximité à l'espace public.
Je vous remercie. J'ai une dernière question un peu plus générale. Depuis la publication de vos livres, avez-vous été sollicité par les pouvoirs publics et diriez-vous que vos travaux pourraient utilement nourrir ces politiques publiques en s'appuyant sur la richesse des relations locales sans récupérer à des fins sécuritaires?
Oui, alors, comment dire il est assez clair pour nous, enfin avec Jérôme, que les sciences sociales, elles ont une utilité publique. De ce point de vue-là, les sciences sociales, c'est des sciences. Donc, on essaye de, on a des méthodologies, on a des, voilà, on fait en sorte d'apporter des connaissances qui sont très très différentes de l'opinion première. Donc ça, c'est oui. Donc si on fait ce travail-là aussi, c'est pour pouvoir. Et la conclusion du livre est assez politique, c'est-à-dire qu'on revient vraiment sur les conclusions de tout ce qu'on a montré, en quoi on peut. Et donc la conclusion, c'est un peu, on l'a écrit comme ça, c'est un peu clé en main des propositions et les conséquences qu'on peut tirer en termes de politique publique de la connaissance du monde social. Donc ça, c'est clair qu'on a cette envie-là et cette croyance dans le rôle des sciences sociales. Par contre, là, clairement, on vit une séquence qui est très compliquée. Nous, sur le livre, on a eu la chance d'être sollicité par un certain nombre de décideurs, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est par quel type de décideurs on a été sollicité. Nous, on a été énormément sollicité par, en gros, je vais vite, les décideurs qui ont les mains dans le cambouis. Donc, qui sont dans les organismes, soit d'habitat, de prévention, d'éducation. Enfin, donc, on a eu beaucoup d'interventions et de discussions importantes. Mais là, vous voyez, c'est des gens qui comprennent l'intérêt et l'utilité des sciences sociales parce qu'en fait, vraiment, ils font. En fait, mais c'est pas les gens qui vont vraiment décider des crédits de la bourse. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a la Macronie, quoi. Et la Macronie, c'est quoi? Ce sont des gens qui deviennent ministres qui ne connaissent pas les sciences sociales. Pourquoi ils ne connaissent pas les sciences sociales? C'est une histoire de socialisation. C'est des gens qui ont fait des écoles de commerce, c'est des gens qui ont un réflexe. Quand ils ont un problème, ils vont faire du benchmarking, ils vont régler les problèmes avec, je vais vite, mais c'est aussi caricatural que ça, avec des tableaux Excel, etc. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une enquête ethnographique, ils ne connaissent pas les sciences sociales. Ça a été démontré là sur les dernières années politiques. On le voit en permanence. Enfin, je veux dire, on a un problème avec l'école, on appelle McKinsey. C'est répété. Donc, en fait, les sociologues, les politistes, les historiens, on n'est pas des interlocuteurs en fait pour ces personnes-là, parce que ces personnes-là ne comprennent pas en fait ce qu'on fait et pour ces personnes-là, l'objectivité, c'est un process numérisé, quantifiable, et où vous allez produire des inputs et des outputs qui vont être mesurables sur des échéances de 2, 3 ans, 4 ans max. Pourquoi ? Ça, c'est des échéances qui viennent du monde de l'entreprise, et 2 ou 3 ans dans le monde de l'entreprise, c'est genre ultra long, et ça correspond au terme des échéances électorales. Et nous, on est ailleurs. Donc là, je dirais, il y a un problème de socialisation scolaire, en fait, sur les élites politiques actuelles, qui fait que, de manière générale, bon, je dis un peu des généralités et des exceptions, mais les sciences sociales, on n'est pas perçu comme les interlocuteurs les plus légitimes. Je pense que c'est dramatique. C'est vraiment dramatique parce que on passe à côté de beaucoup de choses, et pas que sur les quartiers. Hein. C'est valable sur la connaissance du monde social. Et c'est fou parce qu'en fait, on n'a jamais produit collectivement autant de connaissances sur le monde social. À l'université, on produit plein de thèses. On a plein de connaissances. On a plein de connaissances sur la réalité, en fait, de ce que vivent beaucoup de personnes en France qui pourraient aider la décision publique. Mais cette connaissance-là, elle est très peu utilisée.
C'est une très bonne question, comme toutes les questions qui ont été posées, d'autant plus que l'approche des quartiers populaires, elle se fait quasiment uniquement sous un angle sécuritaire. Si on continue un petit peu sur la Macronie, bon, on l'a bien observé, notamment avec la façon dont les révoltes ont été réprimées, hein, et l'ordre de Macron. C'est comme si toutes les actions, toutes les activités des jeunes d'esthète étaient tout de suite criminalisées, comme le simple fait d'occuper l'espace public maintenant qui est totalement criminalisé. Je ne sais pas si vous avez suivi les affaires de jeunes de cités de Paris qui croulent sous les dettes par des amendes de policiers, par occupation, simple occupation de l'espace public. On le voit aussi dans la rénovation urbaine, où il y a tout un volet sécuritaire maintenant avec la situation prévisionnelle, je crois, où on essaye de rénover les quartiers, en plus du volet mixité sociale, avec un filet sécuritaire, pour faire des percées, pour que la police rentre plus facilement dans le quartier, pour faire une double sécurisation des halls, pour empêcher que l'espace public soit occupé, de couper les arbres, de retirer les bancs, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on ne sait pas comment le livre ensuite va être récupéré. Il y a de grandes chances qu'il soit récupéré à des fins sécuritaires par les pouvoirs publics, si jamais ils regardent ou ils lisent de la sociologie, ce dont je doute également. Moi, j'ai été un peu moins sollicité, mais j'ai été sollicité surtout aussi par les travailleurs sociaux, parce que de ce qu'il en ressort, des échanges qu'on a pu avoir, c'est que comprendre la logique des rapports de génération entre petits et grands, et de savoir que ces rapports, ils fonctionnent sur une logique d'un rapport de domination, d'un rapport d'autorité des grands sur les petits, ces rapports-là, en fait, ils interviennent sur l'occupation des équipements publics. Donc, très concrètement, par exemple, ils interviennent sur l'occupation des centres sociaux. C'est-à-dire que, comme il y a l'autorité des grands sur les petits, bon, bah, il est très facile pour les grands d'évincer les plus petits pour avoir accès à telle ressource, telle partie du centre social. Idem pour le City-Stade. Je parle beaucoup du City-Stade, où j'ai mené beaucoup d'observations, parce que c'était aussi une voie d'entrée sur le terrain avec le groupe de garçons que j'ai suivi qui jouait au foot. C'est aussi comme ça que j'ai aussi pu m'intégrer dans ce groupe-là. Bon, bah, le City Stade, très concrètement, c'est le seul équipement public qui est ouvert tout le temps. Et quand on est sur des quartiers où on a 30 à 40% de la population qui a moins de 25 ans, ça fait beaucoup de jeunes dans l'espace public, des milliers de jeunes qui se partagent un équipement. Et ces rapports de génération, ils interviennent dans l'occupation de ces équipements-là. Et on observe ces rapports de domination-là à ce moment-là, quand les grands virent les petits pour avoir accès au terrain. Donc ça permet aussi de comprendre les logiques d'occupation de l'espace public et des équipements.
Merci beaucoup. Nous avons eu une heure d'intenses débats, de discussions passionnantes avec des livres formidables. Livres formidables qui rappellent l'importance des sciences sociales dans le débat politique et de rappeler comment ces enquêtes nécessitent à la fois patience, mais également des grandes compétences de rigueur pour produire des discours fondamentaux pour le débat public et le débat démocratique. Donc je vous remercie très chaleureusement Fabien Truong et Mickaël Chélal, les étudiants aussi, et puis je pense qu'on peut applaudir de manière chaleureuse nos auteurs pour clore cette partie. Merci beaucoup.